d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes sur 106.3, Fréquence Paris Pluriel, dans l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres d'Attac.
Alors aujourd'hui, une émission un petit peu particulière. Actualité oblige, les élections européennes auront lieu le 25 mai. Et du coup, nous sommes allés interviewer un spécialiste des problématiques européennes, Pierre Calfa, au local de Solidaire, dans le 19e. Alex s'est occupé de cette interview et elle prendra un petit peu de temps. Et du coup, voilà, on aura un format d'émission un petit peu différent par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Mais pour commencer, nous avons une petite chronique sur
la manif de hier.
Voilà, de l'actualité.
Voilà, hier, donc si vous avez regardé la télé ou lu le journal, vous ne le savez sûrement pas, il y avait une journée de mobilisation des fonctionnaires contre l'austérité.
Ah bon ?
Car malgré le succès des manifs, les médias ont fait le service minimum. Libé s'est contenté de reprendre une dépêche AFP avec ce titre magnifique et original, « Journée de grogne des fonctionnaires pour leur salaire ». Car c'est bien connu, l'analyse économique, la réflexion politique, ce sont des choses réservées aux gens du PS et du MEDEF, tandis que les syndicats, eux, ne savent que grogner.
Des sous. Des RTT.
Mais comme le journaliste est quelqu'un d'objectif et pluraliste, il donne la parole aux uns et aux autres, aux syndicats, aux politiques et à la police. Sauf que le journaliste sélectionne étrangement les citations. Quand l'AFP cite le gouvernement, elle donne les arguments du gouvernement. La ministre de la fonction publique, par exemple, explique « Nous ne pourrons faire de gestes que le jour où la croissance redémarrera. » Voilà du bon sens.
C'est pas gagné.
Et que répondent les syndicats ? Le gouvernement devrait être attentif, plutôt que de répondre par des lettres, dit Jean-Claude Maillet de FO. La colère est grande, l'incompréhension aussi, a prévenu Bernadette Croison de la FSU. Tandis que Thierry Lepont, de la CGT, a estimé que le gouvernement a intérêt à entendre les revendications qui s'expriment dans le pays. Et Laurent Berger, CFDT, de conclure « Il faut que cela cesse ». Bref, vous voyez bien que ces gens-là n'ont aucun argument à opposer au bon sens ministériel. Alors pourquoi manifestent-ils, à part pour le plaisir de grogner en mangeant des merguez ? Selon l'AFP, le principal motif de grogne concerne le gel du point d'indice qui sert de base au calcul des salaires et qui n'a pas été augmenté depuis juillet 2010. Quoi ? C'est juste pour ça que ces feignants font grève alors qu'il n'y en a pas de croissance depuis 2010 et que tout le monde est dans la même galère ? Alors, ce que l'Libé et l'AFP oublient de dire, c'est que depuis 2000, en fait, le pouvoir d'achat des fonctionnaires a baissé de 20% et que n'importe qui, si son salaire baissait d'un coup de 20%, descendrait dans la rue. Et qu'en plus de ça, les services publics tournent avec des moyens de plus en plus réduits. Et que les fonctionnaires ne manifestent pas seulement pour leur salaire, mais aussi pour le service public. Par contre, ce que l'IB et l'AFP n'ont pas oublié de dire, ce sont les vraies conséquences terribles de cette journée de mobilisation. Je cite « Les touristes ont aussi fait les frais de la mobilisation au château de Versailles, fermé pour la journée. Et plus de 10% des vols Air France ont été annulés, surtout dans le sud-est. Du coup, le rugby club toulonnais a dû revoir ses plans et prendre le TGV pour un match à Lille. Quand on lit ça, on a envie de grogner l'international.
C'est super bien le sanglier, Gaël.
Ouais. La suite. Alors, on va commencer sur la première partie de l'interview de Pierre Calfa qui va se présenter lui-même tout de suite.
Nous interviewons aujourd'hui Pierre Calfa, l'un des auteurs de Que faire de l'Europe, livre collectif réalisé par Attac et la Fondation Copernic. Donc on va commencer par vous présenter brièvement. Vous êtes syndicaliste, membre de Sud, membre du conseil scientifique d'Attac et coprésident de la Fondation Copernic et membre du conseil environnemental, social et économique.
Conseil économique, social et environnemental, plutôt
dans l'autre sens. Et surtout pour
Je
nous...
Je représente l'Union syndicale solidaire.
D'accord. Et donc pour moi, surtout pour nous, c'est vous êtes une figure importante du mouvement altermondialiste en France. Et donc on vous interview pour ce livre, Que faire de l'Europe, que vous avez coécrit avec, alors je vais essayer d'oublier personne, Verven Angéli, Thomas Coutreau, Guillaume Etiévant, Michel Husson, Daniel Rallet, Jacques Rigaudia, Catherine Samary et Aurélie Trouvé. Alors d'emblée, dès le titre et surtout avec le sous-titre, qui est désobéir pour reconstruire, le problème est posé. Il y a un malaise aujourd'hui avec la construction européenne, on a le sentiment que ça va pas, et qu'il faudrait la reprendre pour en faire autre chose. Et il y a une citation que j'ai trouvée dans le livre qui m'a intéressé, quelque chose que j'avais oublié, c'est que dans le préambule du traité de Rome, premier traité européen, 1957, il est dit que le but essentiel de l'Europe, c'est l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi. Donc là, on est en plein dedans. Aujourd'hui, on peut que constater le contraire, chômage qui explose, conditions de vie qui se dégradent dans une bonne partie de l'Europe. Et donc, ça sera un petit peu ça ma première question. Dans quelle mesure on peut dire que l'Europe est responsable en partie de cette évolution-là ?
Il faut d'abord peut-être repartir du mode de fonctionnement de l'Union européenne. On a l'habitude de dire l'Europe nous force à, l'Europe nous oblige à, c'est la faute de l'Europe, etc. Et moi-même, je suis familier de ce type d'expression. En fait, quand on regarde les choses de près sur le fonctionnement de l'Union européenne, on voit que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. L'Union européenne, c'est une machine à fabriquer du droit à partir des traités européens et des directives européennes. Et les traités européens ont été négociés entre les États et ratifiés par les États. Bon, sans que d'ailleurs en général que les peuples soient eux-mêmes consultés. Dans la plupart des cas, sauf en Irlande, ça s'est fait par un vote du Parlement. Bon. Et les directives, aucune directive européenne n'a été adoptée s'il n'y avait pas sans l'accord des gouvernements. Bon. Donc en fait, quand on regarde les choses, ce sont les gouvernements qui ont la main sur la construction européenne. Alors la Commission européenne a un pouvoir important parce qu'elle est dans les traités gardienne des traités. Elle, et elle a le monopole de la proposition législative, c'est-à-dire c'est elle qui fait des propositions de directives. Mais aucune directive n'est adoptée si les États ne sont pas d'accord, soit à l'unanimité pour certains sujets, soit à la majorité qualifiée pour d'autres, pour la plupart des sujets maintenant. Bon. Et le Parlement européen a un pouvoir non négligeable parce qu'il a un pouvoir de blocage de ces directives s'il n'est pas d'accord. Ce qu'il a fait d'ailleurs à plusieurs reprises. Par exemple, il a bloqué une directive de libéralisation des ports, la directive portuaire a été bloquée par le Parlement européen, sous l'impact des mobilisations des dockers à l'époque. Concernant la directive Bolkestein, qui était une directive de libéralisation des services, il a vidé cette directive de son contenu, là aussi sous l'impact des mobilisations citoyennes en Europe, après le vote non au traité constitutionnel européen en 2005. Bon. Donc c'est un Parlement qui a un pouvoir non négligeable, qui est celui de bloquer. Bon, ce qui est déjà, il peut modifier, etc., mais il peut bloquer s'il est en désaccord avec les propositions du Conseil européen qui regroupe les représentants des gouvernements. Enfin, si on regarde le rôle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est un rôle très important, mais c'est évidemment une Cour de justice qui interprète le droit européen, et donc il crée un nouveau droit. Chaque fois qu'on interprète du droit, en fait, on crée du droit nouveau, ce que fait la Cour de cassation en France régulièrement, mais elle n'interprète qu'à partir d'un droit préexistant, bon, qui a été lui-même écrit, coécrit par les différents gouvernements. Donc ce qu'on peut dire, sans avoir peur de schématiser, c'est que les gouvernements décident à Bruxelles des politiques qu'ils appliquent dans leur propre pays. Et donc, on ne peut pas dire que c'est la faute de l'Europe sans dire tout de suite après que c'est aussi la faute des différents gouvernements qui composent l'Europe et qui décident au niveau européen.
Mais est-ce que le problème n'était pas déjà là au départ, d'une certaine manière, puisque les traités fondateurs de l'Union européenne sont des traités de libre-échange ? C'était ça aussi, peut-être fondamentalement, le but de l'Europe dès le départ.
Ce n'est pas tout à fait exact. D'abord parce que le contenu du traité de Rome n'est pas simplement un traité de libre-échange, puisqu'il indique clairement que le but du traité, c'est l'amélioration des conditions de vie et de travail de la population. Ensuite, il vise à produire une union politique. Il se fixe comme objectif une union politique entre les peuples d'Europe. Et d'ailleurs, à l'époque, la Grande-Bretagne, qui ne faisait pas partie des fondateurs du marché commun, hein, de la communauté économique européenne, avait, pour concurrencer la communauté économique européenne, créé l'Association européenne de libre-échange, hein, qui, elle, visait simplement être une zone de libre-échange. De plus, à l'époque, le traité de Rome, qui possède des aspects libre-échangistes indéniables, hein, était d'abord ce libre-échange se faisait dans une zone économique qui était une zone économique relativement homogène, dans laquelle les conditions sociales étaient extrêmement proches, en tout cas très proches. Bon, et donc la question du dumping social ou du dumping fiscal ne se posait pas de la même façon que ça se pose aujourd'hui. Et ensuite, il y avait des politiques publiques européennes, par exemple en matière d'énergie, la politique agricole commune qui a sorti en partie, hein, les produits agricoles du marché mondial, hein, pour avoir une autosubsistance alimentaire en Europe. Bon, donc il y avait un tarif extérieur commun à l'Union européenne, donc à la communauté économique européenne, à l'époque c'était pas l'Union européenne, donc il y avait à la fois des aspects qui étaient des aspects libre-échangistes, mais dans une zone économique homogène, relativement homogène, donc ce n'était pas très gênant d'un point de vue social et fiscal, et surtout avec des politiques publiques européennes qui avaient pour but justement d'homogénéiser encore plus, hein, ce qui se passait à l'échelle européenne. De plus, à l'époque, le marché commun, c'est la cohabitation de marchés nationaux, avec des droits de douane qui baissaient progressivement, mais c'était simplement la cohabitation de marchés nationaux, tout simplement parce que le capitalisme était organisé sur une base nationale, régulé sur une base nationale, et dans lequel les États avaient un pouvoir, hein, sur son organisation qui était très forte. Ce qu'on appelait le capitalisme fordiste avec des politiques keynésiennes. Bon. Or, tout change, hein, à partir du milieu des années 80, donc vous avez le changement s'est fait progressivement, hein, le capitalisme n'a pas changé du jour au lendemain, il y a un changement progressif qui commence à la fin des années 60, petit à petit, mais globalement il y a un tournant au milieu des années 80 avec un nouveau type de capitalisme qui apparaît, ce qu'on appelait la mondialisation néolibérale, la globalisation du capital, qui se traduit en Europe, hein, par le passage du marché commun, bon, qui était la cohabitation de marchés nationaux, à un marché national unifié. Des biens, des services, des capitaux et des personnes, bon, mais sans que se mettent à côté de ce marché national unifié des politiques de convergence économique et des politiques de convergence sociale qui permettent de lutter contre le dumping social et le dumping social. Et donc on a une rupture, hein, dans la construction européenne qui est très importante, qui est l'acte unique, ce qu'on a appelé l'acte unique de 1986, complété ensuite par les traités de Maastricht, Amsterdam, etc., etc.
Care dell'equatore schiere contro la mia bordi e fin mai su si tra laures tu vos su seu gascu agripa talanen so durei.
Bonsoir, vous êtes toujours sur l'émission Mode d'emploi, sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3. L'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres d'Attaque.
Alors on va continuer sur l'interview de Pierre Calfa, avec plutôt une notion d'économie, donc évidemment l'euro.
Et avec ce tournant néolibéral, à ce moment-là, on décide de passer à la monnaie unique.
La monnaie unique est la conclusion de cette affaire. Bon, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on crée une zone économique et monétaire unifiée, avec un marché unifié, il est assez logique d'avoir une monnaie unique. Mais un des problèmes de la monnaie unique, c'est qu'une monnaie unique dans un ensemble hétérogène pose des problèmes majeurs. Donc, est-ce qu'une monnaie unique, ça empêche que chaque pays puisse, à un moment donné où il y a des déséquilibres entre les pays, avoir des ajustements par les taux de change. Bon. Donc il faut mener des politiques de convergence qui sont des politiques très volontaristes, bon, pour justement permettre que les économies des différents pays se rapprochent. Or, ce que nous ont vendu les promoteurs de la monnaie unique, c'est que simplement par l'existence de la monnaie unique et par des critères du pacte de stabilité en matière budgétaire, en matière de déficit et en matière d'inflation, on allait avoir une convergence des différentes économies. Alors, en fait, c'est le contraire qui s'est passé. Et l'euro s'est révélé une machine à diverger. Pour quelle raison? C'est assez simple à comprendre. C'est-à-dire que l'euro, c'est une monnaie commune d'États qui sont en compétition les uns avec les autres. C'est-à-dire que d'un côté, on veut faire de la coopération monétaire, mais d'un autre côté, on fait de la concurrence à tout va. Et à partir du moment où il n'y a pas de politique de convergence qui permette, donc avec des moyens financiers pour le faire, hein, qui permette d'avoir justement le rapprochement des économies des différents pays, eh bien, les différentiels d'inflation dans ces différents pays deviennent un problème central. Or, ce qui s'est passé, c'est que les pays du Sud, ayant une croissance économique plus forte, ont eu automatiquement un niveau d'inflation plus fort que les pays du Nord de l'Europe, ce d'autant plus qu'avec une croissance économique plus forte, il y avait des importations qui étaient plus fortes, ce qui a amené des déséquilibres financiers importants. Jusqu'à la crise financière, ces déséquilibres financiers ont été comblés par un afflux de capitaux extérieurs. Mais ces capitaux extérieurs se sont investis dans les secteurs les plus spéculatifs. Et donc, quand la crise financière a éclaté, ces capitaux se sont retirés immédiatement. Et ces pays qui étaient, par exemple, l'Espagne ou l'Irlande ou le Portugal, qui étaient les bons élèves, suivant les critères de Maastricht, ils remplissaient totalement les critères de Maastricht, et bien, ont vu brusquement leur dette publique et leur déficit exploser. Bon, et l'euro, on n'a pas servi du tout à permettre que ces économies convergent, mais au contraire, hein, en l'absence de politique de convergence, a été l'instrument de la divergence des économies dans les pays de la zone euro.
Oui, et d'ailleurs, à ce propos-là, parce que pendant 10 ans, finalement, on s'accommodait assez bien l'euro, on avait l'impression que ça fonctionnait bien. Avec la crise de la dette, d'un coup, l'euro se retrouve au cœur de la tourmente. Et on a beaucoup mis en avant, notamment entre 2009 et 2012, disons, le problème des institutions européennes concernant au niveau monétaire, c'est-à-dire en particulier le statut de la Banque Centrale Européenne, son indépendance et son mandat qui est de lutter contre l'inflation et pas d'amener de la croissance.
Eh bien, le problème, c'est que la Banque Centrale Européenne ne joue pas le rôle qu'elle devrait jouer en tant que banque centrale. Bon. C'est-à-dire d'être le prêteur en dernière instance des États. C'est à ça, et de garantir donc les dettes publiques. C'est à ça que joue, c'est ça le rôle fondamental d'une banque centrale. Donc le mandat de la banque centrale, d'abord, le premier problème, c'est qu'on a une banque centrale qui n'est absolument pas contrôlée démocratiquement. C'est-à-dire qui est indépendante de tout pouvoir politique et donc qui décide elle-même des politiques qu'elle va mener, alors que la politique monétaire fait partie intégrante de la politique économique et devrait relever du débat démocratique et de la décision citoyenne. Derrière ça, il y a une conception qui est une conception monétariste de la monnaie, c'est-à-dire la monnaie comme étant neutre ne devant absolument pas intervenir dans les processus économiques. C'est la conception entre guillemets, que la néoclassique de la monnaie, monétariste de la monnaie. Donc la banque centrale, en fait, de par les traités, la banque centrale ne peut pas financer les déficits publics. Donc elle ne peut pas acheter directement des obligations d'État, des bons du Trésor, des différents États. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça a été d'ailleurs la cause première de ce qu'on a appelé la crise de l'euro, mais qui n'est pas une crise de l'euro, par ailleurs, c'est que les États sont obligés de s'endetter sur les marchés financiers, la Banque Centrale Européenne prête aux banques à des taux totalement dérisoires, aujourd'hui c'est 0,25%, et les banques prêtent aux États à des taux nettement supérieurs, pour ceux qui ont de la chance, 2,5-3%, et pour les malheureux, 10% ou plus. Donc on a là une aberration. Il faut voir que la zone euro est la seule zone économique majeure dans le monde à faire ça. Hein, bon, si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis ou au Japon ou même en Grande-Bretagne, c'est pas du tout ça qui se passe. Hein. On a des dettes qui sont hors marché financier. Dans la zone euro, on a une dette qui est totalement sous l'emprise des marchés financiers. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est ça la racine de ce qui a été le déclencheur de la crise? C'est que il y a eu une explosion des dettes publiques suite à la crise financière. Bon, la raison étant la crise financière elle-même. Bon, et les marchés financiers se sont aperçus en fait qu'il y avait des risques que certains États ne puissent rembourser leurs dettes publiques. Et donc, le premier touché, c'était la Grèce, ensuite l'Espagne, Portugal, etc. Et donc, il y a commencé à avoir une spéculation sur les dettes publiques de la zone euro, de certains États de la zone euro. Chose qui est totalement impossible en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Japon. Prenons l'exemple du Japon. Le Japon avait à l'époque une dette publique se montant à 200% du PIB. La dette de la Grèce, c'était à l'époque, en 2010, au moment où la crise a commencé, en avril 2010, c'était 120% du PIB. Bon. Le Japon, c'était à l'époque 200% du PIB. Aujourd'hui, il devrait être à 250% du PIB à peu près. Bon. Il n'y a jamais eu la moindre spéculation sur la dette japonaise. Pourquoi? Parce que la dette publique japonaise était achetée par des institutions publiques japonaises qui la replaçaient auprès des épargnants japonais. Donc on avait une dette publique qui était hors marché. De la même façon aux États-Unis, c'est la Banque centrale des États-Unis, la Federal Reserve, qui rachète une grande partie des bons du Trésor américain, et où les autres banques centrales, par ailleurs, vu le rôle central du dollar, qui est particulier. Bon. Mais dans tous les cas, pour X ou Y raison, on a des dettes publiques qui sont hors des marchés financiers. Or, en Europe, les gouvernements se sont mis volontairement dans les mains des marchés financiers. Et donc, ce sont les marchés financiers qui font la loi, en menaçant de spéculer sur les dettes publiques. Donc, ça a été ce qui a été à la racine de la crise de la zone euro.
Et le téléphone sonne. Une question, c'est dans quelle mesure, parce qu'on a imposé au fait aux pays du Sud, aux pays les plus endettés, des mesures d'austérité dramatiques. Dans quelle mesure ces mesures d'austérité très fortes sont liées justement à la défense de l'euro et la défense du système monétaire actuel européen.
C'est pas tant la défense de l'euro que le fait que l'objectif de ces mesures d'austérité, l'objectif annoncé, ensuite il y a l'objectif réel, mais l'objectif annoncé était de dire voilà, il faut que les marchés financiers reprennent confiance dans les États concernés. Et pour qu'ils reprennent confiance dans les États concernés, il faut que les déficits publics et que la dette publique diminuent, pour montrer que les États concernés sont en capacité de rembourser cette dette publique. C'était ça l'argument officiel. Dans la pratique, c'est pas ça qui s'est passé, puisque on a vu que le déficit public a baissé extrêmement peu, que par contre la dette publique a augmenté, et que ces sociétés ont été totalement déstructurées en profondeur, avec un processus de paupérisation très important. Donc, la réduction des déficits publics et des dettes publiques, en fait, était un prétexte. C'est un prétexte, c'est ce que Naomi Klein appelle la stratégie du choc. C'est-à-dire qu'on se sert d'un événement à un moment donné pour parachever en fait ce qu'est le projet néolibéral. Bon. Et la crise financière a été le choc causé par les politiques néolibérales antérieures, et on se sert de ce choc pour parachever le modèle néolibéral en essayant de remettre en cause ce qu'avait fait le modèle social européen, même s'il n'y avait pas un seul modèle social européen, mais des choses très différenciées, mais malgré tout des constantes communes avec les droits des salariés, un niveau de protection sociale non négligeable, etc., etc. Et c'est ça l'enjeu, en fait, des politiques d'austérité. C'est une politique de destruction des droits sociaux patiemment acquis depuis 1945.
Alors moi, personnellement, j'ai le sentiment qu'il y a eu, autour de 2012, et la décision de Mario Monti, le président de la Banque Centrale Européenne, de garantir une partie des dettes publiques sur le marché secondaire, qui a eu une inflexion dans le discours, où on avait vraiment une première période où c'était « il faut rembourser les dettes, il faut montrer qu'on est crédible », et puis maintenant une période où on a bien réalisé que les cures d'austérité, les réformes trop brutales amenaient de la récession, et maintenant on dit « il faut retrouver de la compétitivité ». Alors, ce qui continue en fait l'austérité sous une autre manière.
Disons que les gouvernements et la Banque Centrale Européenne ont vu que on allait à la catastrophe. Voilà. Et donc, au bord du gouffre, ils ont pris les mesures nécessaires pour éviter que la zone euro explose. Parce que c'était ça, à un moment donné, l'enjeu. La Banque Centrale Européenne a bien vu que si la zone euro explosait, il n'y aurait plus de Banque Centrale Européenne. Bon. Donc, par simple instinct de survie, ils ont pris quelques mesures à minima pour empêcher que la zone euro explose. Mais ces mesures à minima ne remettent en rien les politiques d'austérité. Hein. Au contraire, c'est de dire... on vous garantit, on interviendra, c'est-à-dire aux États qui sont en difficulté, voilà, on peut vous racheter à travers toute une série de mécanismes que je ne peux pas détailler ici, parce qu'il y a des mécanismes un peu techniques, on peut vous racheter des dettes, vos dettes publiques sur le marché secondaire, mais à une seule condition, c'est que vous fassiez les réformes structurelles nécessaires, que vous meniez les politiques d'austérité nécessaires pour faire baisser vos déficits publics et faire baisser les dettes publiques et regagner de la compétitivité, etc. Donc en fait, il y a les deux volets. C'est-à-dire qu'il y a d'une part prendre des mesures pour éviter que la zone euro explose, totalement au bord du gouffre, et en même temps continuer les politiques antérieures qui sont des politiques de déstructuration sur des sociétés européennes.
Vous venez d'écouter le titre « Va ranger ta chambre » du groupe « Ceux qui marchent debout » sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Vous êtes toujours, vous écoutez avec plaisir l'émission « Mode d'emploi », l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres d'Attaque.
Alors on va continuer sur l'interview de Pierre Calfa qui avait beaucoup de choses à dire sur les enjeux européens. Et dans cette troisième partie, on va plutôt aborder... la partie polémique, notamment sur la sortie de l'euro, et où en sont les mouvements sociaux européens.
Alors, face à ce constat et ces questions-là, il y a, disons, dans la gauche de la gauche, deux courants maintenant qui se dessinent assez clairement. D'un côté, Jacques Sapir, Frédéric Lordon, notamment pour les plus connus, qui sont eux pour carrément la sortie de l'euro. Et de l'autre côté, bah, justement, Attaque, la Fondation Copernic, donc vous, qui sont pour, dans l'optique d'une autre Europe, d'agir pour essayer de transformer l'euro.
D'abord, je ne suis pas sûr que Jacques Sapir se reconnaisse dans le qualificatif « gauche de la gauche ».
Peut-être pas.
Et moi-même, je ne le reconnais pas dans ce qualificatif-là. Mais bon, au-delà de ça, vous avez raison. Il y a maintenant, globalement, deux positions qui existent, qui est la position qui consiste à dire... il y a un constat qui consiste à dire « l'Europe actuelle est un carcan pour les peuples ». Bon, c'est une Europe néolibérale, antidémocratique. Donc, il y a plutôt un accord sur le constat. Il y a un premier niveau de divergence, c'est de dire mais à quoi cela est dû ? Donc, ceux qui prônent la sortie de l'euro, ce que j'appellerais les souverainistes, qu'ils soient de gauche, de droite ou de façon globale, eux insistent beaucoup sur le fait que c'est la faute de l'Europe, des institutions européennes qui nous imposent des choses. Bon. J'ai essayé d'expliquer tout à l'heure que les choses étaient quand même plus compliquées que ça, que le rôle des gouvernements dans cette affaire était quand même assez primordial. Bon. Et si on laisse de côté cette divergence-là, la divergence évidemment centrale, c'est quelle solution ? Bon. Et donc, effectivement, certains avancent la sortie de l'euro. Nous jugeons cette solution économiquement hasardeuse et politiquement néfaste. Bon. Économiquement hasardeuse, pourquoi ? D'abord parce que, et contrairement à ce que disent les partisans de la sortie de l'euro, par ailleurs, elle augmenterait automatiquement l'encours de la dette. Parce que qu'amène une sortie de l'euro par rapport au fait de rester dans l'euro ? Parce qu'un gouvernement de gauche, disons réellement de gauche, tout en restant dans l'euro, pourrait prendre toute une série de mesures. Hein. Annuler une partie de la dette, ça c'est tout à fait possible en restant dans l'euro. Mettre une réforme fiscale, faire une réforme fiscale radicale, donc à la fois redonner des marges de manœuvre à la puissance publique et soit portage de justice sociale, ça c'est tout à fait possible en restant dans l'euro. Reprendre le contrôle des banques, etc. Tout ça est tout à fait possible en restant dans l'euro. Ça nécessite un bras de fer avec les institutions européennes, bon, des conflits, etc. Mais c'est possible en restant dans l'euro. La seule chose que ce n'est pas, qu'il n'est pas possible de faire en restant dans l'euro, c'est de faire des politiques de dévaluation compétitive. Donc la seule chose qu'apporte la sortie de l'euro, c'est de la dévaluation compétitive. Donc c'est ça qu'il faut discuter. Est-ce que c'est une bonne politique de faire de la dévaluation compétitive ? Donc une politique de dévaluation compétitive, la première chose que ça fait, bon, c'est que ça augmente, hein, dévaluer la monnaie augmente l'encours de la dette. Parce que si, comme les dettes sont libellées en l'euro et que l'euro ne disparaîtra pas, bon, l'encours de la dette sera augmenté automatiquement. Alors, les défenseurs de la sortie de l'euro nous disent oui, mais on peut, par une mesure autoritaire,
La remarque que j'allais vous faire,
voilà, mais... peut décider de transformer les dettes en monnaie nationale. C'est vrai, mais ça revient à annuler une partie de la dette. Chose qui est tout à fait possible de faire sans sortir de l'euro. Bon, donc, si l'objectif c'est de baisser l'encours de la dette publique, il est tout à fait possible de le faire en sortant de l'euro. La deuxième chose, sans sortir de l'euro, hein, la deuxième chose qu'entraîne au point de vue économique les dévaluations, c'est le renchérissement des importations. Qui dit renchérissement des importations dit que ça va peser sur le niveau de vie de la grande masse de la population. Notamment, la France a un déficit budgétaire de plusieurs dizaines de milliards d'euros en matière énergétique. Bon, c'est clair que, parce qu'on on importe l'essentiel de notre énergie, bon, ben, si venir, on augmente, bon, si on dévalue la monnaie, eh bien, le coût de l'énergie sera encore plus fort, sans compter tous les produits que l'on importe de l'étranger, etc. Donc il y aura une augmentation, du coût de la vie globale, hein, due à l'augmentation du prix des importations. Et ça pèsera évidemment sur le niveau de vie de la grande masse de la population. Troisième problème, c'est que en dévaluant, et comme il explique très bien d'ailleurs Sapir, c'est justement, il faudra dévaluer régulièrement la monnaie, hein, pour gagner en compétitivité, en ayant ce processus de dévaluation régulière, eh bien, le risque est grand, hein, de, là aussi, d'avoir des attaques contre la monnaie de la part des marchés financiers, de la spéculation contre la monnaie. Parce qu'aujourd'hui, on a des attaques des marchés financiers contre les dettes publiques, mais la puissance de l'euro appuyée, bon, à ce qui est la zone euro, a fait qu'il n'y a pas eu d'attaque des marchés financiers contre la monnaie unique. Bon. Alors que les monnaies nationales avaient été attaquées par le passé de façon très importante. Bon. Donc il y a un risque non négligeable, hein, je ne peux pas dire que ça aura lieu, mais le risque existe, hein, d'attaque spéculative contre la monnaie nationale. Mais la question, pour moi, est moins économique, hein, même si c'est très hasardeux économiquement, que politique. Parce que qu'est-ce que signifie mener des politiques d'évaluation compétitive ? Ben, ça veut dire qu'en fait, on se place strictement du même point de vue que le patronat et les néolibéraux pour dire le problème de la France, c'est un problème de compétitivité prix. Et pour cela, il faut dévaluer pour retrouver de la compétitivité prix. Donc ce sont des politiques qui sont des politiques non coopératives, qui visent à gagner des parts de marché contre nos voisins, et alors que nous sommes aujourd'hui en concurrence et en guerre économique, et bien qui visent à en rajouter dans la concurrence et dans la guerre économique. C'est-à-dire qu'on n'aura pas plus de solidarité en Europe, on n'aura pas plus de droits sociaux, d'harmonisation sociale, etc. Au contraire, hein, on aura plus de concurrence, plus d'affrontements, plus de compétition économique entre les différents pays européens. Et donc, je veux dire, ce sont par définition des politiques qui visent, je veux dire, à s'affronter, bon, avec les autres pays européens. Et pour moi, ça ne peut pas être un projet progressiste. Qu'une partie du patronat plus s'y retrouver n'est pas étonnant, mais du point de vue de gauche et d'avoir un projet progressiste, si c'est un projet de gauche, c'est un projet qui vise à construire plus de solidarité. Ce n'est pas un projet qui vise à construire plus de concurrence entre les États et les peuples d'Europe. Et contrairement à ce que disent d'ailleurs les partisans de la sortie de l'euro, dévaluer la monnaie n'évitera pas ce qu'ils appellent la dévaluation interne, c'est-à-dire les politiques d'austérité. Et d'ailleurs, historiquement, chaque fois qu'il y a eu des politiques d'austérité, enfin des dévaluations de la monnaie, la dévaluation monétaire s'est accompagnée de politiques d'austérité. Et c'est très compréhensible, parce que le but d'une dévaluation, c'est de gagner en compétitivité. Pour gagner en compétitivité, évidemment, il faut accompagner ces dévaluations monétaires par des politiques de dévaluation interne qui renforcent cette recherche de compétitivité.
Alors, vous aviez parlé de politique coopérative et d'alternative à la situation actuelle, mais pour ça, il faut un rapport de force. Et alors, est-ce qu'à l'échelle de l'Europe, il y a un mouvement social européen qui est suffisamment fort pour imposer une autre manière de fonctionner ?
C'est effectivement le grand problème. C'est-à-dire qu'il y a des mobilisations très importantes dans différents pays de l'Union européenne, même en France. Vous avez eu des très grosses mobilisations par rapport à 2010 sur la question des retraites. Vous avez eu des fortes mobilisations en Espagne, encore récemment, au Portugal, etc. Mais il n'y a pas, pour le moment, de rapport de force suffisant, construit de façon pérenne à l'échelle européenne. Donc ça, c'est un problème majeur. Bon, c'est évidemment ne se résoudra pas du jour au lendemain. Et si, par exemple, il y a eu un débat que vous avez peut-être vu sur la directive détachement des travailleurs, qui est une directive qui ne protège absolument pas les travailleurs détachés des autres pays de l'Union européenne, qui est plein de trous. Bon, si la Confédération européenne des syndicats avait fait son boulot, eh bien, il y aurait eu des mobilisations sociales en Europe de telle façon qu'on obtienne une vraie directive de protection des salariés détachés. Bon, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui, même s'il y a eu quelques avancées. Bon, mais il n'y a pas encore une vraie directive de protection. Alors cette directive va passer devant le Parlement européen, on verra ce qu'il donnera, etc. Mais on voit que là, il y a un manque de mobilisation à l'échelle européenne. Bon. Donc ça, c'est un problème important. Donc il faut essayer de construire ces mobilisations à l'échelle européenne. Mais on ne peut pas, évidemment, s'en remettre strictement ces constructions de mobilisation à l'échelle européenne, et puis attendre benoîtement que ça se passe, même s'il faut tout faire pour que ça se passe. D'où la perspective que nous avançons dans le livre que vous avez cité tout à l'heure, « Que faire de l'Europe ?», qui est l'idée qu'il faut qu'il y ait des ruptures à l'échelle nationale dans une perspective de refondation d'une autre Europe, avec une méthode qui est la méthode de désobéissance aux traités ou aux directives européennes. Il n'y a que devrait faire un gouvernement de gauche. Par exemple, si Syriza arrive au pouvoir en Grèce, ce qui n'est pas totalement impossible, Syriza risque d'être le premier parti à la sortie des élections européennes, au mois de juin, en Grèce, ou, par exemple, qu'aurait dû faire le gouvernement Hollande, et gouvernement qui se réclame de la gauche, il arrive au pouvoir, il a une légitimité populaire très importante. Bon, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Nous pensons, qu'il aurait dû dire la chose suivante, nous sommes attachés à la construction européenne, mais nous refusons d'appliquer des politiques d'austérité, et donc nous voulons refonder l'Europe sur notre base. Bon. Évidemment, les autres pays leur ont dit non, etc. Bon, il ne faut pas se faire d'illusions. Bon, et à ce moment-là, ce gouvernement aurait dû désobéir au traité européen et dire, nous, par exemple, prenons quelques exemples concrets, la directive détachement des travailleurs, elle aurait dû dire, nous n'appliquons pas cette directive, qui est une directive qui est porteur de dumping social. Et nous disons, en France, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, tous les salariés, quelle que soit leur nationalité, se voient appliquer le droit du travail français. Donc, pas de dumping social en France. Par exemple. Deuxième chose, nous appliquons une réforme fiscale qui permet de donner du pouvoir à la puissance publique et qui permet d'avoir une plus grande justice sociale. Nous prenons des mesures spécifiques de contrôle des banques, ce qui n'a pas été fait. Concernant l'euro, il est tout à fait possible, sans sortir de l'euro, de dire la Banque publique d'investissement qui existe aujourd'hui, elle se refinance auprès de la Banque de France et elle finance les investissements d'avenir, par exemple, nécessaires à la transition écologique ou à la satisfaction des besoins sociaux. Ça, c'est tout à fait possible. Donc ça veut dire qu'on on décide de désobéir au traité et à l'Union européenne en engageant un bras de fer. Et en pensant que sur la base de ce bras de fer, on mettrait les autres pays européens devant leurs opinions publiques, ça interpellerait les opinions publiques des pays européens, ça sera un encouragement aux mobilisations à l'échelle de l'Europe, et voilà, on rentrerait dans un processus qui sera un processus de crise politique en Europe, parce que rien ne pourra aboutir par une politique de petits pas. Ça, c'est une illusion totale. Il faut avoir une crise politique majeure en Europe qui permette de bousculer les choses, avoir des chocs diplomatiques qui permettent qu'on s'engage dans un processus de refondation. Quel est sur quoi tout ça aboutirait? Personne ne peut le dire aujourd'hui. Est-ce que ça aboutirait sur une refondation de l'ensemble de l'Union européenne, sur une Europe à plusieurs vitesses, d'autres pays s'engageant avec la France ou la Grèce dans un processus de refondation? Tout dépendra des rapports de force qui seront construits à l'échelle de l'Europe. Mais on sera dans un processus qui sera un processus de transformation sociale, progressiste, engagé au niveau national, dans une perspective européenne et dans une perspective qui s'adresse à l'ensemble des peuples d'Europe.
Très bien. Eh bien, je vous remercie, monsieur Pierre Calfa. Bonne journée.
Merci.
Alors, nous remercions Alex qui a effectué cette interview et Pierre Calfa qui a accepté de nous recevoir. Et puis Magali, qui est très en forme, va nous faire une petite chronique sur le SPIC.
Oui, juste pour rappeler que l'actualité, c'est aussi malheureusement la proposition qu'a faite Pierre Gattaz, président du MEDEF récemment, d'autoriser des emplois en dessous du SMIC. Alors plusieurs proches de François Hollande, et en particulier l'ancien président de l'OMC, Pascal Lamy, qui est membre du PS, souhaitent permettre des petits boulots payés moins que le SMIC. Tous pensent ou font semblant de penser qu'un tel dispositif permettrait de créer de l'emploi et de dynamiser l'économie. Une entreprise débourse environ 1 800 euros pour un smicard aujourd'hui, laissant 1 128 euros dans la poche d'un salarié. Alors peut-on réellement penser baisser un tel revenu qui permet déjà quand même difficilement à un travailleur de se loger et de se nourrir correctement? Et il ne faut pas oublier que beaucoup de travailleurs ne le sont qu'à temps partiel ou par intérim. C'est pourtant cette démarche qui a été appliquée en Allemagne depuis 10 ans, notamment par Schröder, qui est, on le sait, le modèle de Valls. C'est ces mini-jobs qui ont été considérés comme la source de 2,5 millions d'emplois. Sauf que ce qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que ces emplois ont permis de faire basculer, surtout dans la précarité, 7 millions d'Allemands qui travaillent à peu près pour 400 euros par mois. Alors, en 2010, la France pouvait s'enorgueillir d'avoir un taux de pauvreté parmi les plus bas d'Europe, bien en dessous de l'Allemagne, qui est pourtant un pays, comme on le sait, légèrement plus riche. Alors, non seulement ces mini-jobs sont créateurs de précarité, mais surtout, les Allemands semblent avoir déjà pris conscience, en fait, de la montée des inégalités, et ils viennent justement de créer un salaire minimum, même si cette règle ne sera pas généralisée à tous les emplois. Et le 18 mai prochain, la Suisse va également se prononcer sur la mise en place d'un salaire minimum. Et même les États-Unis parlent d'augmenter le salaire minimum, dont la stagnation depuis plus de 7 ans a poussé les employés de la restauration rapide dans une longue grève l'an dernier. Donc, si on résume, à l'heure où la France se lance dans les petits boulots, les pays qu'on nous a montrés en exemple pour justifier ce projet, eux, sont justement en train d'en revenir.
Merci Magali. Alors, pour terminer, le sommaire du numéro du PIAF du mois. Hein. Donc, ce mois-ci, nous avons parlé de la fin du millefeuille, une réforme indigeste, euro et souveraineté démocratique, un horoscope pour signifier un petit peu les signes avant-coureurs de ce qui va se passer dans 15 jours.
Tout à fait.
Traité transatlantique, la justice privatisée, profiter de la crise, Wikipédia à l'Académie, des employés pris en sandwich, Front National, le grand flou national, et voilà, donc je vous invite
un numéro extrêmement riche que vous pouvez découvrir sur www.le-piaf.org.
Exactement. Et du coup, nous allons passer à l'agenda, comme chaque mois. Et je commence donc. L'Europe dans l'impasse, que faire ? Le collectif Montreuil-Oise pour un audit citoyen de la dette, dont Attaque 93 Sud organise un débat contradictoire le mardi 20 mai 2014 à 19h30 avec Olivier Berrurier, Thomas Coutreau et Cédric Durand. Donc c'était à l'espace Comme vous et moi à 19h30, 5 rue de la Révolution à Montreuil. Plus d'infos sur le site d'Attaque 93 Sud.
Vous pouvez également participer à un débat intitulé « Que faire de l'Europe ? Désobéir pour reconstruire ?» C'est ce que propose en tout cas Attaque et la Fondation Copernic. Ce sera à Paris, à la Maison de l'Europe, dans le 4e, 35-37 rue des Francs-Bourgeois. Et ce sera surtout le 22 mai à 18h30. Il faut préciser que ce débat sera animé par Arnaud Parlementier, journaliste du Monde, et qu'on aura la participation justement de Pierre Calfa, dont on a écouté l'interview pendant cette émission.
Alors, un autre rendez-vous, donc là c'est à Ménac en Corrèze, Libérons les médias, donc ça sera du 23 au 25 mai. Donc ce sont les troisièmes rencontres nationales des médias libres et du journalisme de résistance, organisées par l'association Rencontres médiatiques. C'est la combienième édition. Mais en tout cas, j'ai raté un épisode.
Elles auront lieu, je crois que tu n'as pas dit la date, les 23, 24 et 25 mai.
Oui, exactement.
2014, voilà. Et enfin, à ne pas louper, si vous êtes à Paris ce week-end-là, la fête de la dette. Ça se passera dans le fameux lieu, le 104 rue d'Aubervilliers, dans le 19e, le 31 mai à 19h, avec d'abord un spectacle de Christophe Alévèque, qui s'intitule « Le tour de la dette en 80 minutes », et à 20h, un grand bal de la dette. Voilà, c'est très, très innovant.
Exactement. Donc on vous invite tous à y aller. Sur ces mots, on va vous quitter et puis remercier tous les gens qui ont participé à l'émission. Donc Magali, d'abord, Gaël, merci. Claude, moi-même et Alex pour l'interview de Pierre Calfa qui s'est passé dans le local de Solidaire, voilà, en début de semaine. Je vous remercie.
J'étais encore un enfant quand on s'est rencontrés. J'ai mis mon adolescence à comprendre combien je t'aimais.